Si on reprend la vie de saint Ignace, c'est très facile pour se rappeler sa date de naissance, ce sont les grandes conquêtes, enfin vers l'Amérique latine, les grandes traversées des océans, 1491. Il s'est converti à l'âge de 30 ans. Vous vous rappelez, après le siège de Pampelune, où il a eu une blessure, et pendant son temps de convalescence, il a eu cette conversion presque par distraction. À l'âge de 50 ans, il est le préposé général de cette nouvelle compagnie de Jésus. Ça veut dire que pendant plus de 15 ans, il a trouvé peu à peu sa vocation. Il a mis 15 ans minimum à trouver sa vocation, ce qui est très rare pour l'époque, parce qu'on était soldat, on était religieux, on était même évêque, j'ose pas dire dès la naissance. Vous voyez, toute cette société où tout se vivait en commun, cette chrétienté, on était propulsé vers un état de vie. Lui, il a mis 15 ans. Il a eu des obstacles, on pourrait dire aujourd'hui, il a galéré, il a cherché, il a eu des échecs, des oppositions, mais ce temps de 15 ans, ou peut-être même 17, eh bien ce temps long lui a permis d'approfondir et d'entrer avec finesse dans la délicatesse de l'âme humaine. Le Seigneur savait ce qu'il faisait en le faisant mariner, en le faisant chercher par lui-même. Et dans son parcours, il a eu une année spécialement compliquée. Il s'est converti donc après le siège de Pampelune en 1521. Il a eu son temps de convalescence, presque 9 mois. Et puis, dans l'année 1522, il a eu 1522-1523, il a eu cette année compliquée, il voulait aller, vous vous rappelez, en pèlerinage à Jérusalem. Il est passé par cette abbaye très connue, là, près de Barcelone, dont j'oublie le nom, Montserrat, merci. Et on aurait pu penser qu'il aurait continué. Et il s'est arrêté 9 mois, ou peut-être 10 mois, je ne sais plus exactement, mais une petite année, on va dire, dans la ville de Morez. Et là, à Morez, pendant un an, il a prié de manière très fervente, il a repris son histoire, son désir profond, et il a identifié peu à peu comment Dieu lui suggérait des choses à travers ce désir et à travers la reprise de son histoire. Merci. Pendant cette année très compliquée, très intense, il a dit que le Seigneur le traitait à la manière d'un maître d'école, comme un maître d'école traite son enfant, son élève, en l'enseignant. Eh bien, il a écrit les exercices spirituels. Alors, pas exactement, parce que les spécialistes disent qu'il y a eu 25 ans d'élaboration. Ce petit livre de 3 fois rien a mis 25 ans. Je fais exprès de vous montrer, je n'ai pas pu trouver une chose, mais on pourrait peut-être l'agrandir un peu, mais ce texte qu'on va voir, qui est quand même très compliqué, complexe, il l'a pesé, repesé, retraduit, etc., pendant 25 ans. Mais on peut dire que le process fondamental s'est fait dans cette expérience de Morez. Il avait cette idée, je vais y revenir, que ce que je vis peut servir à d'autres. Vous vous rappelez peut-être, ceux qui connaissent un peu mieux, il a eu dans tout son discernement de sa vocation, ça a bougé, il voulait rester à Jérusalem, etc., etc. Et il y a toujours une pensée qui lui restait, aider les âmes. Aider les âmes. aider les âmes, ça semble ultra simpliste, comme... mais ça veut dire pas faire à leur place. C'est un pédagogue, c'est un éducateur. Et pendant qu'il vivait profondément sa recherche de vocation à Morez, il y avait toujours la proximité des autres. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être se demander pourquoi il n'est pas resté à Montserrat, parce qu'il y avait des ermites tout autour, il aurait pu faire une grande retraite. Non, il a voulu faire sa retraite dans la ville pour aider les âmes. Il était à la fois au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il était au four vraiment dans son expérience, mais il ne pouvait pas s'empêcher de la partager au moment même où il la vivait. C'est très particulier. Et donc, non seulement c'était avec les gens de Morez, il faisait ce qu'il a rappelé plus tard la conversation spirituelle. Et puis, il pensait aux gens pour plus tard. C'est pour ça qu'il mettait par écrit ses expériences. Il le fait à un moment de l'histoire très spécial, où on passe peu à peu du Moyen-Âge au temps moderne, à travers ce passage de la Renaissance, au moment d'une très grande mutation culturelle, où la personne accède à la conscience de son autonomie. Et si vous voulez, c'est à la fois un homme du pèlerinage, donc du Moyen-Âge, mais c'est vraiment un homme qui a un pied déjà dans la modernité, parce que il est en train de se dire, je fais une expérience personnelle très importante, et bien d'autres, de façon très personnelle, la feront aussi. Alors est-ce qu'il en a conscience? En tout cas, il écrit des petites choses pour ne pas oublier, pour les mettre en forme. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais ce moment est très spécial. Comme disait Martelet dans un article que j'ai gardé, c'est le moment où, avec l'affaire Galilée, le soleil ne tourne plus autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil, un décentrement. C'est que l'Église ne tourne plus autour de Rome avec Luther. C'est que les océans sont ouverts, le monde ne se résout pas à l'Europe. Et c'est une grande mutation. Où l'homme va être au centre d'une certaine manière, tout en se décentrant complètement sur l'univers. Et puis il sera tellement au centre, avec cette autonomie de la conscience, qu'il pourra même oublier Dieu. C'est ce qui arrivera au 18e et 19e. En 1535, donc quand même longtemps après, nous sommes en 1522, on s'aperçoit déjà, quand il va faire ses études à Alcala, à Salamanque, à chaque fois, vous savez peut-être, même à Paris, il va avoir des problèmes avec l'Inquisition, et à chaque fois on lui demandera « montrez-nous vos papiers ». Ce ne sera pas sa carte d'identité, ce seront les exercices. Et donc, en reprenant ce qu'on appelle son récit, ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, on voit que cette liasse de papier s'épaissit, au point où la dernière étape, en 1535, l'inquisiteur de Paris veut garder les exercices. Alors ça c'est compliqué, parce que je pense qu'il n'en a qu'un exemplaire. Mais ce qui va se passer, c'est que même avant 1535, dans les années 1530, enfin quand il est étudiant au quartier latin, il donne les exercices à ses confrères universitaires, au point que la Compagnie de Jésus va se former. François Xavier les fera, la plupart le feront rue Saint-Jacques, dans des maisons particulières. Ils les feront aussi au palais du Luxembourg, enfin pas au palais, mais à la Chartreuse de Vauvert, qui était, je pense, à côté de la maison, l'école des mines, là, et puis il y a des serres là autour. Là. C'était par là, cette fameuse chartreuse. Ils se retrouvaient le dimanche, et puis ça a donné naissance avec ce fameux moment à Montmartre, le 15 août 1534, où ils ont prononcé des vœux. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'ils ont chacun fait les exercices, Et ils ont vu que leur élection, on reviendra sur le mot, c'était de se rejoindre entre eux. De se rejoindre avec l'idée de partir à Jérusalem. Et si ça ne marchait pas, si les Turcs occupaient la Méditerranée, eh bien on irait s'en remettre au pape. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais voulu fonder un ordre religieux. Ce qui les réunissait, c'est l'expérience de Dieu qu'ils avaient faite à l'occasion de ces exercices spirituels. Nous sommes en 1535, le livre est rédigé, Ignace va quitter Paris, et puis ensuite ils vont se retrouver en 1539, ils vont faire leur fameuse délibération à Rome pour devenir un ordre religieux. C'était très mal vu, les ordres religieux, parce qu'on est dans un bazar immense dans l'Église catholique. Il y a la réforme protestante, mais beaucoup d'ordres se sont, j'ose pas dire corrompus, mais ont mal fini. Et donc, si on voulait apporter quelque chose de neuf, il fallait surtout pas devenir religieux. On les appelait au début les prêtres réformés, les prêtres de la réforme. Et la première chose, parmi les premières choses qu'ils ont faites, en devenant finalement, on ne les appelait pas les jésuites encore, c'est de demander au pape de reconnaître les exercices spirituels. Alors, on reviendra là-dessus, ça a mis un certain temps, mais en 1548, le pape reconnaît les exercices. Avec l'idée que ce n'est pas la propriété des jésuites, de ce groupe naissant. C'est pour le bien de l'Église. Parce qu'ils ont fait l'expérience, d'abord Ignace avec ses compagnons, mais c'est quand la personne est guidée au moyen des exercices, elle change complètement sa vie. Et donc de se mettre sous l'autorité du pape, il va y avoir plusieurs indications, je reviendrai tout à l'heure, mais c'était l'idée que c'est pour la réforme de l'Église, pour que les gens retrouvent un contact vraiment personnel et très profond avec le Seigneur pour traverser, si vous voulez, toutes les barrières sociales et culturelles oppressantes du temps, pour qu'ils puissent trouver librement leur voie, la façon de servir Dieu, mais tel que le cœur le dit, et non pas tel que la société le dit. En 1548, le livre va être imprimé en 500 exemplaires. Aucun ne va être vendu. Ils vont tous partir à la maison généralice, cadenassé, j'imagine, et Saint Ignace le donnera à tel ou tel, de façon vraiment parcimonieuse. Avec l'idée, c'est un livre dangereux, qu'on ne peut pas remettre entre toutes les mains. Pourquoi ? Mais parce que c'est d'abord un livre pour ceux qui vont donner les exercices. On les appelait autrefois les instructeurs. C'est la personne, c'était le père, c'était de Moustier, je crois, qu'il disait, imaginez un professeur de cuisine, eh bien, au moment où son élève est au fourneau et au four, eh bien, il lit ce qu'il doit faire à tel ou tel moment où ça commence à bouillir, vous voyez, où il faut changer d'une casserole à l'autre. C'est seulement le maître qui lit ce livre pour savoir ce qu'il faut faire au bon moment. C'est très spécial. Et si le maître ne sait pas faire ou le fait mal, ça peut être très préjudiciable pour la personne qui est au fourneau et au four et aux casseroles. Donc, on a des lettres de saint Ignace, lui qui était quand même un peu scrupuleux, extrêmement vigilant, très énormément de rigueur. Il les a données vraiment au compte-gouttes. Mais le livre, je cite la traduction dans la préface, « Non tantum lecturi sed facturi ». Ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire, à exercer. Le livre n'est qu'un instrument entre les mains d'un maître d'exercice. Ce livre ne peut se comprendre en dehors de la relation entre ce qui va se passer, entre celui qui les donne et celui qui les reçoit. Je ne pense pas qu'il y ait un autre livre de ce type, au risque de me tromper, mais Roland Barthes, là, le sémiologue, a écrit des paroles, enfin des lignes très étonnantes sur ce livre, qui apparemment n'aurait pas d'autre équivalent. Au soir de sa vie, saint Ignace fait des confidences, notamment dans le récit, certaines choses, je cite, qu'il observait en son âme, il parle à la troisième personne, certaines choses qu'il observait en son âme et qu'il trouvait utiles, il lui semblait qu'elles pourraient être utiles à d'autres, ainsi les mettait-il par écrit. Ce qui a guidé saint Ignace, c'est le critère d'utilité. Habituellement, l'utilité n'est jamais un mot du vocabulaire spirituel. Mais chez lui, si. Ça fait partie de son expérience, mais d'autres, eh bien, pourront bénéficier de ce que j'ai vécu. Ça sous-entend qu'il a d'autres expériences qui n'a pas semblé utile à transmettre à d'autres et qui vont rester dans le secret du roi. Donc, il a fait une sorte de sélection en très bon pédagogue, parce que, à mon avis, c'est ça son charisme premier. Il a compris qu'il va s'adresser à des gens maintenant. Les jésuites sont en Inde à son époque, à la fin de sa vie. Il va gouverner 15 ans la compagnie à peu près. Il va mourir à 65 ans. Il y aura déjà en Amérique latine, en Inde, en Europe, bien sûr. Ça commencera en Éthiopie. C'est-à-dire qu'il a l'idée qu'il va s'adresser à l'humanité, dans son universalité et sa différence culturelle. Mais il croit que certaines choses vont pouvoir être utiles à d'autres. Donc là, nous avons une expérience personnelle où la personne croit qu'elle peut être universalisable. Et puis, c'est une expérience qui se livre, mais vous avez vu, qui se dérobe à la fois. J'ose pas faire le parallèle avec Jésus. Jésus nous dit, suivez-moi, sous-entendu, mais imitez-moi. Enfin, c'est plutôt saint Paul qui dira ça. Le mot imiter, je ne pense pas que Jésus l'emploie. Mais Jésus, on le suit, on peut lui le ressembler, et ça nous échappe complètement, et ça, il se dérobe. Rappelez quand on dit... le matin, tout le monde te cherche, mais il priait bien avant l'aube. On voit qu'il y a toute une partie de la vie de Jésus qui échappe, et puis en même temps, il ne fait qu'enseigner, il ne fait que transmettre. Toute proportion gardée, bien sûr, saint Ignace, c'est la même chose. Et il va avoir une expression très importante, qu'on retrouvera aussi dans les constitutions de la compagnie. L'expression, c'est la suivante, la manière de procéder. Manière de procéder. C'est-à-dire que saint Ignace soigne particulièrement le chemin qui mène à l'expérience pour se disposer à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire qu'il organise, il va mettre donc, il aura mis 15 ans à organiser la progression d'une expérience. Il y a une difficulté à cela. car une expérience de Dieu est en soi incommunicable. Elle est celle de la liberté de l'esprit. Ce qui est communicable, ce n'est pas l'expérience, c'est ses chemins, la méthode, la manière de procéder. Ça, c'est sa conviction. Il va faire tout ce schéma que vous voyez, qui est, excusez-moi pour ceux qui parlent chinois, mais qui est du chinois pour la plupart d'entre nous, seulement pour que le Créateur puisse librement parler à sa créature. C'est une de ses expressions favorites. Que la liberté puisse s'exprimer. Et comme au moment de Morez, dans cette fameuse année compliquée, il disait que Dieu était avec moi comme un maître d'école, qui me prenait au point où j'en suis, mais il me faisait avancer, progresser. Moi, j'étais tellement marqué par la pédagogie de Dieu que je vais essayer de trouver, d'inventer un process pour que ces gens puissent avoir cette rencontre profonde et puissent trouver leur vocation. Voilà grosso modo ce que sont les exercices spirituels. Je vous dis autrement des choses un peu plus techniques. Il va y avoir trois versions du vivant d'Ignace de ce texte des exercices. Il va y avoir d'abord ce qu'on appelle l'autographe, écrit en espagnol. Bon, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il y a une trentaine, peut-être 35 corrections dans la marche de saint Ignace. Ça veut dire qu'il a fait sans doute avec un ou deux pères, comme ça une petite équipe. C'est celui qu'on préfère, parce qu'on sent qu'il avait un espagnol finalement assez, pas forcément très élégant, mais très réaliste, avec même des fautes d'espagnol, paraît-il. Mais au moins, il voulait dire ce qu'il voulait dire. Et donc, c'est celle depuis la fin du 19e qui est préférée par les jésuites. Et la meilleure, enfin, celle qu'on se réfère habituellement, c'est celle d'Edouard Guettant, qui est dans la collection des clés de Prouvaire Bellarmin. Il y a ensuite, parce que beaucoup de gens ne parlaient pas espagnol, il y a ce qu'on appelle la versio prima, une traduction latine de l'autographe. Pour ceux, donc, est-ce qu'elle a été écrite trop vite, je ne sais pas, mais le latin est trop basique, trop carré, n'a pas les nuances. Et peu après, saint Ignace, il devait y avoir des retours un peu négatifs vis-à-vis de cette version, il y a ce qu'on appelle la Vulgate. C'était un jeune jésuite, sans doute un brillant latiniste, qui est en étude à Rome, s'appelle le père Defreux. Et puis, il a réécrit, sous l'autorité d'Ignace, mais une version en latin plus élégant. Mais nous croyons qui laisse passer, au nom de l'élégance, les choses un peu raboteuses, si vous voulez, les choses un peu qui grattent, là, de l'espagnol, de la versio prima. Alors, il y a eu un débat, notamment par un jésuite qui s'appelle Jean-Claude Guy. Je vous en parle parce que c'est la version de la collection Sagesse.seul. Jean-Claude Guy était un jésuite magnifique. Je dis magnifique, malheureusement il est mort beaucoup trop jeune, mais il a eu une fulgurance pour comprendre à la fois la vie religieuse et puis les exercices spirituels. Il a eu une thèse audacieuse qui a été contestée, c'est qu'il a dit dans cette dernière version, la version de Freux, la dite Vulgate, même si c'est le latin élégant, c'est la dernière version qui a été visée par saint Ignace. Donc c'était quand même le texte définitif. Et en fait, bon, je vous passe les dates, et puis j'ai pas tout compris, mais les spécialistes disent en fait non, c'est l'autographe qui reste la version la plus, vous voyez, la plus poussée. Je vous le montre quand même, cette édition de Point Seuil, parce qu'il y a une excellente introduction de Jean-Claude Guy. Vous voyez, elle fait tout ça, là. Et je m'en servirai. Je me servirai des livres de Moustier, enfin d'un certain nombre. Mais comme elle est assez accessible et à un prix très modique, je vous la... Alors, peut-être pas exactement la version, pour les raisons que je viens de dire, mais au moins pour l'intro, elle est très bonne, je la laisserai là. Enfin, c'est très facile à voir. Vous avez, je suis allé à la procure il y a quelques jours, il y a une grande multiplicité de versions, des éditions des exercices. Regardez quand même la date, parce qu'il y a eu beaucoup d'essais, et le mieux, c'est de prendre une date la plus proche d'aujourd'hui pour ce qui est de l'édition. Mais vous faites comme vous voulez. C'est bien si vous participez au cycle, là, de peut-être d'avoir une édition de poche, même si je mettrai les textes là, mais au moins vous pourrez vous en référer. En se rappelant que c'est un livre qui se lit pas comme ça. Vous n'êtes pas ce soir, là, sous la bougie, oh là là, non, vous êtes au bout de deux pas, je veux dire, vous reprenez votre roman. Non, c'est quand même un peu... Et encore une fois, c'est un livre à faire. Je dirais aussi que beaucoup de gens se sont demandé pourquoi ce livre a été publié anonymement. Et là, on a quelques textes des proches de Saint-Ignace. Saint-Ignace, lui, s'est retiré vis-à-vis des trois versions. Et comme si, vous voyez, il avait mis toute sa vie dans son texte, et puis après, il dit, ben non, c'est le bien de l'Église. Et les pères ont dit, les premiers pères ont dit, ben non, les exercices, tout le monde connaît, donc il n'y a pas besoin de dire que c'est de Saint-Ignace. Aucune dédicace. Souvent, tous les livres religieux ont dédicacé le livre à un grand personnage ecclésiastique, etc. Non, non, ça c'est mondain, on ne le fait pas. Mais en revanche, en 1948, il y a une bulle pontificale, et puis le nil obstacle de l'Inquisition de Rome, pour en faire un bien d'église, comme je vous le voulais, comme je vous le disais, mais surtout parce que ça a été très attaqué. Très attaqué, et jusqu'après. Par exemple, en Espagne, dans les années 1550, il y a une sorte de tempête et qui montre que l'expérience spirituelle de Saint-Ignace est difficile à mettre dans les cases. Et ce qui est bizarre, c'est que ce texte a été contesté pour des raisons opposées. Et cette raison, on retrouvera ces raisons d'être vent debout, on les retrouvera aussi dans l'histoire de la compagnie. Soit le texte a été accusé d'illuminisme, les fameuses alumbrados espagnoles, c'est-à-dire que Dieu arrive comme ça, verticalement, vous êtes tout seul et vous faites votre expérience, au risque de quitter l'Église, de ne plus avoir besoin de l'Église, et puis que mon ego, pour parler très, très caricaturalement, ben, peut prendre la place de Dieu, parce que personne ne me dira, ben non, tu te trompes. Et avec tous les excès de l'illuminisme, mais quand, j'ai cité il y a un instant, cette parole de Saint-Ignace, que le Créateur parle librement à la créature, et tout ce process est fait pour ça, voyez que derrière, il y avait un soupçon possible d'illuminisme. C'est pour ça qu'il, je crois que je l'avais dit l'an dernier, il va établir à la fin du livret les exercices, pour les règles pour sentir avec l'Église. Et à l'inverse de cet illuminisme, il sera attaqué de pélagianisme. Enfin, si vous vous rappelez de ce Pélage-là, qui a beaucoup ferraillé, enfin, saint Augustin au moins a beaucoup ferraillé avec lui, puis un certain nombre, mais qui a une grande influence de l'Église. Ça veut dire que c'est tout le rapport entre la nature et la grâce. Vous vous rappelez que Pélage va dire « moi je fais mon travail » et puis Dieu vient, comme il me laisse libre, il me laisse responsable, il vient couronner, il vient conclure ma tâche. Je le dis de toute façon très, très caricaturale là aussi. Mais quand Saint Ignace invite à l'examen de conscience, quand il invite à faire beaucoup d'efforts et des répétitions, on va le traiter de qu'il est volontariste, qu'il est pélagianiste, et que la grâce, finalement, on ne la voit pas beaucoup. Parce qu'il va insister tantôt sur l'engagement de la personne et tantôt sur que Dieu, c'est lui qui est à l'origine et à la conclusion de tous nos actes. Donc il va se retrouver dans une tension qui est impressionnante et qui fait quand même toute la force de l'expérience ignatienne. Je vais laisser, c'était seulement, et puis je m'aperçois que ça va être, de toute façon, ce sera trop. Je vais essayer de refaire le chose. Mais je voulais vous montrer, au moins, que vous ayez un aperçu de, on va voir en détail, la prochaine fois, comment est ordonné ce livre, et plus exactement, ces fameuses 4 semaines. Je vais reprendre aussi le titre, on va aller plutôt dans le texte les fois prochaines. Mais je voudrais vous montrer, juste, et puis on va laisser un temps pour les questions, je voudrais vous montrer, comment dire, bon, je vais être obligé de vous montrer, mais... En fait, derrière tout ce process, vous avez l'Évangile. Vous avez l'Évangile. Vous avez tout ce que le chrétien de tous les mondes entiers, surtout maintenant, c'était l'avènement de l'imprimerie. Au début, c'était les moines qui avaient les livres saints. Et puis avec la réforme de Luther, va pousser l'Église à quand même peu à peu faire accéder le peuple chrétien aux évangiles et au Premier Testament. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pourquoi l'expérience de Dieu est si importante, c'est parce que Saint Ignace, en reprenant en partie la façon dont la contemplation était faite par les franciscains ou par les gens de l'Europe du Nord, dit de la devotio moderna, où c'est l'affectivité qui va être en première ligne, eh bien, vous revisitez des passages de l'Écriture que vous avez entendus, que vous avez appris dans votre enfance. Et donc, ce Dieu que je connais, admettons que j'ai 25 ans ou 35 ans, je fais une nouvelle rencontre du déjà connu, mais du totalement nouveau. Et en faisant cette rencontre, je me rencontre moi-même de façon nouvelle. Et, nous le verrons, nous reviendrons souvent là-dessus, j'entends mon désir que je ne connais pas moi-même, mais que Dieu me révèle. Je vous dis un peu, c'est ce qu'il va appeler l'élection, c'est ça la visée des exercices. Et je crois que je le disais l'an dernier, mais si je suis, on m'avait donné l'exemple de la mère abbesse de l'abbaye de Chalais qui est vers Grenoble et c'est un monastère dominicain. Elle a fait les exercices, elle est devenue plus dominicaine. C'est ça qui est. Un de mes amis Carme a fait un moment difficile de sa vie. Les exercices, il est devenu plus carme, alors que l'ordre du Carmel, il est presque à l'opposé de notre façon de prier. Vous rappelez, on fait le silence, il y a une expérience apophatique, vous voyez, où il n'y a aucune visée, c'est les subjectivités qui s'expriment, on doit être que accueil, que réceptacle de la parole. Tandis que nous, on va On va au contraire, c'est l'expression, j'emploie des mots un peu, mais au moins qui cataphatique, c'est-à-dire qu'on va, on va s'exprimer, et notamment par l'imagination, notre subjectivité, parce qu'elle fait partie de notre histoire, va être mise à profit pour rencontrer le Seigneur. Eh bien, le frère Carme, qui est d'une spiritualité toute différente, voire opposée, entre guillemets, parce que quand on se rejoigne, c'est le même Seigneur, etc., c'est le même Esprit Saint, eh bien, il va oser faire les exercices, et il va redevenir plus lui-même. C'est ça, ma conclusion, c'est, vous voyez, ce process extrêmement complexe, etc., c'est pour redevenir soi-même, pour se connaître soi-même et la façon dont Dieu vient nous parler, parce que c'est ça une des expressions de la toute-puissance de Dieu, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Je l'ai dit quelquefois à Saint Ignace, dire que il y a pas, Saint Thérèse de Lisieux disait, il n'y a pas une âme qui est pareille. Déjà, nous, physiquement, on est tous différents. Elle disait, à plus forte, encore plus, les âmes se diffèrent les unes des autres. Et là, il y a un coup de génie, c'est qu'il y a un process qui fait que, qu'on soit de toutes cultures différentes, de spiritualités différentes, eh bien, on passe au karcher, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose de l'homme nouveau dont parlait saint Paul qui apparaît, qui émerge. Il nous reste 4 minutes. Si nous pouvons avoir une question ou une remarque ou une nuance, là c'était une intro générale.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux confessions de saint Augustin ? Parce que saint Augustin aussi parlait de son expérience intérieure.
Oui, alors il va y avoir un certain nombre d'autobiographies qui vont nous marquer beaucoup dans l'histoire de l'Église. Vous avez parlé des confessions de saint Augustin. Il y aura les confessions, enfin, ma vie, là, de la vita de Thérèse de Jésus, qui est contemporaine, quasiment, bon, elle est un peu plus tard. Il y aura, bien sûr, longtemps après, les manuscrits de sainte Thérèse de Lisieux. On aura un certain nombre d'autobiographies. Et là aussi, c'est un pari très grand, mais bon, c'est là. La force d'une littérature de grande qualité, c'est que la personne parle d'elle-même et vous vous retrouvez dedans. Et je pense que c'est ça le parallèle qu'on pourrait faire. Les grands textes nous parlent de nous-mêmes, parce qu'il y a une expérience qui est complètement singulière, mais c'est l'expérience d'humanité rencontrant son Seigneur.
Bien avant.
Mais ce qu'il voulait, là où c'est très différent, c'est pas une histoire. L'histoire, c'est le récit, et encore, on lira pas mal le récit pour comprendre le lien entre l'expérience d'Ignace et ce qu'il nous propose. Mais vous verrez, ce sera un peu, j'ose pas dire hasardeux, mais un peu une forme d'équilibrisme. Moi, je m'appuierai sur les grands auteurs hein, pour vous en parler. Et puis, jusqu'à présent, je ne sais pas exactement, vous voyez, tel passe-temps. Typiquement, le récit de la conversion de saint Ignace au tout début, je pourrais commencer par là, mais je le mettrais bien à la fin, à un moment des exercices. Ça va être difficile à voir. Mais en tout cas, c'est l'expérience d'un homme, mais là, il s'efface complètement. Et encore une fois, c'est unique parce que c'est un process. Alors, il y aura beaucoup d'exercice, hein. Ce sera un mot, on le verra quand on va commenter le titre, c'était quelque chose de connu, hein. Des exercices de piété, des exercices de mémoire, d'examen de conscience, c'était connu, les exercices. Mais là, il va faire quelque chose jusqu'à présent, personne n'a fait quelque chose comme lui. Oui.
Et est-ce qu'il y a aussi l'ambition, finalement, d'un livre à faire? Celui qui lit le livre, l'écrit, trouve aussi finalement le propre processus, ses propres exercices, comme un livre qui devient affaire aussi, à créer.
Là, c'est le livre du maître. Mmh. Oui. Et là, votre question, c'est quand je le lis.
En gros, est-ce que finalement, ce qui était transmis, la transmission de ce livre,
oui,
c'est aussi une invitation à ce que le lecteur ait aussi sa propre trouvaille, hein,
alors, je pense que ça se fait différemment. La personne qui lit le livre, il est en train d'aider quelqu'un à faire son propre chemin dans un moment de façon globale, on peut dire pendant 30 jours, à l'écart. Et c'est comme une grande retraite en silence où je dédie un mois à cette grande retraite, cette fameuse 4 semaines. Mais ça suppose que celui qui donne les exercices, celui qui a le livre, et vous vous rappelez, je dis comme un maître de cuisine alors que l'autre est au fourneau, à un moment, je ne sais pas trop comment, ben je reprends un mémo. Alors, de temps en temps, il y aura des exercices qu'il donnera parce que ce sera écrit, mais souvent, il dira, moi, je suis un peu perdu, c'est en train de bouillir, là, ça va passer au-dessus de la casserole, alors, voilà. Mais ça veut dire que lui-même l'a faite, cette expérience, avant. Ce que j'entends de votre question, c'est que ça donne un espace très ouvert. Vous sortez normalement de cette expérience à la fois vous-même, mais très différent. Et il y aura ce moment de l'élection dont je vais parler les prochaines fois, où vous aurez entendu votre désir, qui est aussi celui de Dieu, après une période karcher, où vous vous dépouillez de ce que Saint Ignace va appeler les attachements désordonnés. Et à ce moment-là, effectivement, vous créez vous-même, enfin, vous créez votre vie. Il y a quelque chose de nouveau vraiment qui vient. Et notamment une décision où il y a cet état de vie qui peut pivoter, si vous ne l'avez pas déjà pris avant. C'est bon ? Bon appétit et à mardi prochain.